marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut toujours qu'il y ait une petite part de mystère dans l'histoire, sinon ça vaut pas la peine d'en faire.
L'Europe est-elle chrétienne ?
Le deuxième concile œcuménique du Vatican est donc terminé. Le rideau a été tiré sur le décor prestigieux de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les 2500 pères du concile ont regagné leur diocèse. Que reste-t-il de ces 3 ans et 58 jours de travaux ? Quel bilan ? Provisoire, bien sûr. Peut-on en dresser dès maintenant ? Je vous propose d'examiner aujourd'hui si l'Église catholique s'est effectivement réformée, mise à jour dans ses structures, dans son gouvernement, comme le lui avait demandé le pape Jean XXIII.
En 1965, les participants du Concile Vatican II croient, lorsqu'ils se séparent, avoir construit la plateforme où se rencontreraient enfin Église et monde moderne. Les voies du Seigneur étant impénétrables, les lendemains du Concile ne furent pas ceux qui étaient prévus. Au moment où l'Église rejoignait les libertés modernes, celle-ci était en train de changer de contenu. L'individu, après avoir acquis les libertés politiques, en appelait maintenant à la libération des mœurs et des désirs. Le Concile n'avait pas prévu cette révolution anthropologique dont 1968 reste comme le signal. S'arc-boutant à la défense de la morale naturelle et familiale, l'Église va éloigner d'elle quantité de chrétiens qui auparavant se tenaient encore sur le parvis et qui vont maintenant lui tourner le dos. Dans une Europe que les papes eux-mêmes considèrent dorénavant comme païenne, n'aurait-elle plus d'autre devenir que celui d'une minorité active ? C'est paradoxalement à cet instant que certaines forces politiques, qui jusque-là partageaient le mouvement général de déchristianisation, relèvent la bannière de l'Europe chrétienne. Y sont inscrites de vieilles images, la crèche de Noël, le baptême de Clovis, le siège de Vienne face aux Ottomans 1000 ans plus tard, la protection de la Vierge. Un exemple, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui ne semble pas particulièrement touché par la grâce divine quand il s'affiche quotidiennement avec de pulpeuses créatures, aime poser aussi en compagnie de la statue de la Vierge, et pas n'importe quelle Vierge, celle de Medjugorje qui apparaît en Croatie en 1981, qui n'est toujours pas reconnue par Rome, mais qui est utilisée par les nationalistes croates pendant les combats en ex-Yougoslavie. Le christianisme dit porter au cœur un message de paix et d'espérance, l'utilisation qui est faite aujourd'hui du vocabulaire de feu. La chrétienté ne poursuit pas nécessairement ses objectifs.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie d'Olivier Roy. Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
L'Europe est-elle chrétienne ? C'est une question que vous posez dans un essai aux éditions du Seuil. Je vois dans le Figaro que vous êtes un calviniste incroyant mais savant, formé par les jeunesses protestantes.
Oh ben, moi, mon grand-père était pasteur et jusqu'à l'âge de 18 ans, effectivement, je suis un pur produit du catéchisme calviniste des années 50 et 60.
Et puis à un moment, vous connaissez le catholicisme parce que vous vivez dans les appartements d'un ancien prélat, plutôt conservateur, qui s'appelait Monseigneur Calvet et qui involontairement vous a laissé sa bibliothèque et sa chapelle privée.
Oui, parce que une de mes tantes s'est convertie au catholicisme. Évidemment, quand on se convertit, on choisit jamais la version la plus molle de la religion, et donc l'oncle de son mari était Monseigneur Calvet, et on m'a très gentiment donné la chapelle désaffectée comme chambre à coucher, ce qui pendant quelques semaines m'a permis de me cultiver dans un domaine que je ne connaissais pas trop, à savoir le catholicisme.
Mais ça fait quelques années que vous vivez à Florence, enseignant à l'Institut européen bien connu de Florence, et un de vos points d'observation, enfin un des sujets d'attention, c'est le monde catholique italien, très différent d'ailleurs du monde catholique français.
Oui, je dirais le monde catholique italien est beaucoup plus ouvert. Et alors pas forcément pour les raisons qu'on croit, c'est-à-dire on s'imagine que les catholiques italiens vont à la messe, sont beaucoup plus pratiquants. Or, d'un point de vue de sociologie du christianisme, les taux de pratique réelle sont en train de s'aligner sur les taux français. Par contre, il y a un catholicisme social, les confréries, les fraternités, etc., qui est extrêmement vivant en Italie.
Alors, les années 1960, expliquez-vous, révolution anthropologique, l'individuation gagne les mœurs, et c'est ça qui va mettre l'Église en porte-à-faux, puisque en juillet 1968, soit 2 mois après le mouvement de mai 68, l'archevêque de Paris l'avait rejoint quasiment, le pape publie une encyclique, c'est-à-dire un enseignement de vérité, et un enseignement qui porte sur la procréation. Le mariage doit être orienté vers la procréation, en bonne théologie catholique traditionnelle.
Oui, mais évidemment, la reformulation d'une règle traditionnelle de l'Église dans le contexte de mai 68 prend un sens complètement différent. Énormément de catholiques pensaient que la réconciliation avec la modernité, avec le sécularisme, etc., allait s'étendre au domaine de la vie quotidienne, au domaine des mœurs, au domaine de la sexualité.
Et alors, qu'est-ce que dit Paul VI en écho ? Il faut qu'il y ait des enfants baptisés, élevés dans la communauté familiale, parce que la communauté familiale, c'est la première Église, c'est l'Église domestique, c'est comme ça qu'on aura avec soi l'avenir. Ça suppose donc que la maîtrise de la fécondité, si elle doit se faire, dans certaines conditions, ne peut l'être que par des méthodes naturelles.
Oui, c'est-à-dire il s'agit de refuser l'autonomie de la liberté sexuelle. Il n'y a pas de liberté sexuelle. Il y a une fonction, qui est la fonction de reproduction, à laquelle on peut prendre un certain plaisir éventuellement, mais tout est orienté vers la reproduction dans un cadre très précis, qui est le cadre de la famille traditionnelle. C'est-à-dire que à l'époque, évidemment, le mariage homosexuel n'était pas...
Oui, mais attendez, on n'en est pas là. Ce qui est rendu impossible, c'est, d'après l'enseignement du pape, en bonne morale chrétienne, l'usage de contraceptifs mécaniques, le stérilet quoi en somme, et chimique.
Oui, et la pilule. Beaucoup de catholiques se disaient, bon, la condamnation de l'avortement c'est normal, parce que l'avortement c'est mal, c'est la vie, etc. Mais la contraception juste nous permet d'éviter l'avortement. Donc on s'attendait, enfin une grande partie des catholiques s'attendait à ce que l'Église accepte la contraception pour mieux réaffirmer son opposition à l'avortement. Or, on a une position là totalement maximaliste, qui est de ramener, c'est la nature qui décide de tout, et il n'y a donc plus de liberté, disons, du sujet désirant, ce qui était le grand thème des années 60.
Avec les calendriers originaux, calculer les périodes, mais sa liberté est limitée. Alors, 30 troubles dans l'opinion laïque, bien sûr, on imagine les réactions du planning familial. Elles sont dans ce reportage de France Culture, l'émission Le Monde Contemporain, de Jean Debert et de Francis Crémieux, mais on les a ôtés pour donner la priorité aux théologiens. Ici, c'est le père Kowalski. Il est un peu embarrassé, il tente de sortir par le haut, le théologien.
Nous, théologiens, je crois que nous avons à battre notre culpe de ce que nous avons trop facilement laissé, sur des problèmes aussi essentiels, la réflexion soit à des purs philosophes, soit à des techniciens, sans aller au fond de la question proprement théologique, c'est-à-dire qu'est-ce que la foi a à voir dans la morale ? Qu'est-ce qu'une morale qui soit véritablement l'expression d'un amour de Dieu et du prochain ? Et comment cela se monnaie concrètement dans une vie de ménage ? Et peut-être que ce n'est pas aux théologiens aussi d'y parler. Et est-ce que les laïcs qui soient vraiment des saints, et je crois qu'on a besoin essentiellement de saints pour renouveler la question, n'auraient pas quelque chose à dire ?
Monsieur Joseph Castro.
Un petit problème, c'est que je me demande, est-ce que ce n'est pas dans la tradition de l'Église, et spécialement de ceux qui disent qu'ils font partie de l'Église, c'est-à-dire les catholiques, mettons, et dans un sens le plus large, les chrétiens, ce n'est pas dans sa tradition toujours de frauder les principes fondamentaux de la règle de l'Église. Donc c'est pas nouveau, ça. De tous les temps, on parlait toujours...
Le péché
toujours.
Fait partie de la tradition.
On parlait toujours, oui, c'est ça. Il fait partie du mystère.
Bon, on va s'arranger, dit Josué de Castro, qui est un chrétien de gauche chilien. Il y a cette vieille distinction, vous savez, entre l'hypothèse et le fait. L'hypothèse, c'est ce qui est idéal. Bon, le fait, c'est la réalité. Eh ben, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il va y avoir une opposition, au moins muette, forte, avec un décrochage massif, et notamment de la part des femmes, c'est-à-dire de celles dont on attendait le rôle de transmission fondamental.
Oui, parce que, dans le fond, ce que le pape demande, c'est que la foi redevienne centrale dans le comportement du chrétien. Or, les gens, bon, on les met devant un choix de tout ou rien, parce que la foi, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Et ce que le pape, de manière non intentionnelle, fait disparaître, c'est toute la zone grise entre ceux qui croient absolument et fermement, ceux qui sont pas trop sûrs, ceux qui agissent par conformisme, etc. Et ceux-là n'ont plus leur place, d'un seul coup, dans l'Église. Soit on est dans la communauté de foi, soit on est dans ce monde profane devenu païen que dénonce le pape.
Décrochage qui se marque par la désaffection du sacrement de pénitence. Enfin, on appelait ça la confession et on va appeler ça la réconciliation. L'Église c'est de moins en moins pratiqué.
L'Église a essayé de proposer une espèce de compromis. On a adouci les sacrements, on n'emploie plus des termes horribles comme pénitence, comme enfer, etc. On parle du bonheur, dans le fond. Réconciliez-vous avec Dieu, par le Christ, et vous serez heureux. Ben, ça prend pas. Voilà. Ce compromis que l'Église croyait faire avec la modernité, ça marche pas.
La situation que vous décrivez en France, 50 ans après Humanevitae, c'est celle d'une minorité catholique. Les contributeurs au denier du culte, on apprend là, parce que le denier du culte rend un peu moins cette année, qu'ils ne sont qu'un million et quelques. C'est pas beaucoup.
Non, et c'est pas propre à la France. On est dans toute l'Europe occidentale, avec l'exception de la Pologne qui n'est pas dans l'Europe occidentale, on a maintenant une chute des pratiquants en dessous de 10% et qui se rapproche partout de 5%.
Avec aussi un resserrement de la structure sociale. Autrefois, la corbeille de la quête, on entendait le tintement des pièces de monnaie. Maintenant, il n'y a plus que des billets, le doux froissement des billets donnés par une clientèle paroissiale aisée.
En France, c'est très clair. Si vous prenez la Manif pour tous, c'est Neuilly, Versailles, Passy. En Italie, c'est moins évident. Il y a quand même des traces d'un christianisme social plus large.
Alors, vous dites que, d'une manière positive, réduit à la situation minoritaire, les catholiques français, sur la recommandation du pape Benoît XVI, d'ailleurs, peut-être, se sont dit, on va prendre l'option monastère mental, l'option bénédictine.
Alors il y a
petit groupe élitaire.
Il y a deux options. Là, il y a celui de la reconquête, mais comme on peut pas faire de reconquête spirituelle parce que les gens reviennent pas, on fait du lobbying politique. On intervient pour que soutenir les partis ou les individus qui veulent limiter le droit à l'avortement, qui veulent limiter l'expression de l'islam dans l'espace public, etc., etc. Donc on fait de la politique. Et l'autre formule qui n'est pas du tout incompatible, c'est on se replie sur soi et dans le fond on demande à l'État de vous reconnaître une espèce d'exemple cléricale. En tant que chrétien, nous ne devons pas être obligés de faire des choses que nous réprouvons. Donc, on a le droit de ne pas célébrer le mariage homosexuel, par exemple. Un espèce de droit de retrait par rapport à ce qui est perçu par eux comme une dérive païenne de la société contemporaine.
Ce sont des ZAD, au fond, que les chrétiens voudraient voir se créer des zones à défendre. Je fais allusion à une revue qui s'intitule Revue chrétienne d'écologie intégrale, limite, ça veut dire écologique, défendant la morale naturelle. Elle est publiée par un groupe qui s'intitule Première Partie et qui fédère toutes sortes d'activités intellectuelles, politiques et artistiques du monde catholique d'aujourd'hui. En témoigne ce disque pieusement choisi par notre réalisatrice Audrey Ripouille, Tournez les yeux vers le Seigneur, une chanson de Pierre Fond.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Olivia Roy, l'Europe est-elle chrétienne ? Vous nous disiez que vous apparteniez, que vous interveniez dans nombre de communautés catholiques, parfois à votre grande surprise, devant des foultitudes.
J'ai été aux réunions de Rimini organisées par Communion et Libération, et là j'ai parlé devant 3500 personnes, ce qui évidemment ne m'arrive jamais. Parce qu'il y a encore en Italie, où il y a un catholicisme populaire, disons en tout cas social, qui ne se limite pas à des noyaux de bourgeois de conservateurs traditionnels. Il y a un mouvement, je dirais aussi, de conversion de catholicisme, de born again, de retour à la foi. Et ces communautés, ces fraternités, dont j'en cite trois, mais c'est pas les seuls. Il y a Communion Libération, il y a Santé Gidio, il y a les Focolare. Ils sont à la fois très actifs dans la société, à tous les niveaux de l'échelle sociale, et en particulier en direction des pauvres et des immigrés, donc. Et en même temps, ils s'organisent comme des espèces de monastères spirituels à côté de la société. Par exemple, des laïcs vont prêter des vœux de chasteté, de célibat, vivre ensemble, mais sans aucun signe extérieur, sans faire de vœux de prêtrise, et ils sont médecins, avocats, etc., mais ils vivent en communauté. Il y a une espèce d'idéal de vie en communauté des années 60, qui s'est reformulé dans un cadre catholique.
Dites-moi, Olivier Roy, à propos de conversion, il y en a une spectaculaire, c'est celle du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. On a vu des photos de lui dans la presse française, il tient entre les mains une vierge, la vierge de Medjugorje, qui est censée apparaître régulièrement depuis 1981 dans une petite localité de Croatie.
Il est toujours sur le parvis des églises, vous ne le verrez jamais dans une église. Hein. Il utilise ces symboles d'un christianisme populaire identitaire, qui est un christianisme de la frontière, de la défense, de la croisade, en gros, puisque c'est bien le rôle aussi qu'a joué la Vierge de Medjugorje dans la Croatie. Et l'église est extrêmement critique par rapport à cette manipulation de symboles chrétiens très très forts dans une version identitaire. Le pape a très fortement, et même violemment, parce que le pape ne mâche pas ses mots, condamné, par exemple, l'utilisation de la Vierge dans une procession populaire locale où on l'a fait s'incliner devant la maison du boss de la mafia locale. Et donc, pour l'Église, ce que fait Salvini avec la Vierge, c'est la même chose que ce que fait la mafia des Pouilles avec la même statue de la Vierge.
Votre institut universitaire de Florence, m'avez-vous expliqué, est installé dans deux vieux bâtiments religieux qui sont maintenant propriété du ministère des Affaires étrangères qui vous les prête.
Eh ben, on vit dans des couvents parce que les couvents sont vides. Hein. Ouais. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que dans toute la colline qui domine Florence, il n'y a plus qu'un seul monastère où vous trouvez des moines, c'est des franciscains, et ils se sont transformés en maison de retraite pour franciscains.
Alors, dans une ancienne chartreuse, très belle, qui je crois appartient au ministère du patrimoine, des biens culturels italiens, s'est installé Steve Bannon. Alors, c'est pas le genre Olivier Roy, c'est un ancien conseiller très proche de Trump, qui s'est établi en Europe, un peu comme son missie Dominici. Il a pour fonction de fédérer les extrêmes droites, avec une réussite variée. Voilà ce qu'il disait en 2015, donc il y a pas longtemps, dans l'enceinte du Vatican. Il y avait été invité dans une réunion par une autre communauté qui s'appelle Humanae Dignitatis, mais pas du genre de celle que vous décrivez. Elle est animée par un cardinal américain, le cardinal Burke. Les propos de Steve Bannon il y a 4 ans. Je pense que la discussion sur la création et la distribution de la richesse, c'est quelque chose qui devrait être au cœur de tout chrétien capitaliste. Quel est le but de cette richesse? Qu'est-ce que je fais avec la capacité que Dieu nous a donnée, cette providence divine, d'être réellement créateur d'emplois et créateur de richesses? Je pense que nous devons tous nous assurer de réinvestir cela dans des actions positives. Or, nous sommes au tout début d'un conflit mondial, et si nous ne sommes pas liés en tant que partenaires avec d'autres pays, ce conflit ne fera que métastaser. Aujourd'hui, Daesh dispose d'un compte Twitter en vue de transformer les États-Unis en une rivière de sang s'ils tentent de défendre la ville de Bagdad. Et croyez-moi, cela va venir en Europe. Cela va venir en Europe centrale, en Europe occidentale et au Royaume-Uni. Et donc je pense que nous sommes dans une crise des fondements du capitalisme. Et en plus de cela, nous sommes maintenant, je crois, au début d'une guerre mondiale contre le fascisme islamique.
Alors deux points. Premier point, Olivier Roy, je ne sais pas ce que c'est qu'un chrétien capitaliste.
C'est quelqu'un qui reçoit une élection divine parce qu'il gagne beaucoup d'argent?
Non, ça c'est la version protestante. C'est là, il y a le grand, disons, clivage entre ce populisme chrétien américain et le populisme chrétien européen. Le populisme chrétien américain est pour le capitalisme mondial. Voilà, il est pour cette nouvelle globalisation financière qui est justement l'ennemi des identitaires européens. Les identitaires européens, ils veulent un retour sur le terroir, sur la famille, sur la paroisse, sur la province, etc. Et ils sont pour des formes communautaires de solidarité entre gens identiques, évidemment, entre soi. Hein. Tandis que Bannon, c'est au contraire l'apologie du nouveau système financier mondial. Donc là, il croit être en phase. Il prêche là.
Il est mal entendu et par le président tchèque qui a failli le mettre à la porte et par Marine Le Pen qui ne veut plus beaucoup entendre parler de lui. Et néanmoins, il propose une utilisation positive des dons de Dieu dans une lutte et une lutte contre eux. Le fascisme islamique.
Oui. Alors là, bon, ça, c'est le thème de la croisade, qui là, évidemment, est très populaire parmi ces identitaires européens, puisque, en gros, le populisme moderne, enfin, contemporain, en Europe, n'est pas du tout un héritier du fascisme, par quelques petits partis, bon, autrichiens, suédois, etc. Mais on a un populisme, sui generis, récent, des années 90, 2000, qui est essentiellement construit contre l'islam, contre l'immigration, et qui est pas du tout pour un retour à la famille traditionnelle ou aux valeurs chrétiennes traditionnelles.
Mais vous comprenez que pour le petit reste des catholiques ou pour le cercle un peu plus large de ceux qui se sentent encore sympathisants du catholicisme, le fait que, revenons en France, le nombre de pratiquants de l'islam est en train de dépasser le nombre de pratiquants du catholicisme, surtout dans la jeunesse, se profile comme une opportunité d'approfondir sa foi peut-être, mais enfin surtout comme une menace.
Il y a une profonde ambiguïté, parce que l'Église n'est pas du tout contre le retour du religieux dans l'espace public, bien entendu. Et en ce sens-là, les musulmans, c'est un défi interne, si je peux dire. Voilà des gens qui n'ont pas peur d'afficher leur foi. Mais en même temps, c'est une religion, évidemment, rivale, qui met en cause des siècles et des siècles d'histoire de la construction européenne. Donc, l'Église est coincée entre ce que j'appellerais l'identitaire. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être chrétien, un croyant, mais on défend la croix comme drapeau et pas comme symbole de la foi? Ou est-ce qu'il vaut mieux être croyant, quelle que soit, dans le fond, la religion dont on se réclame? Et quelles sont les valeurs chrétiennes qui sont des valeurs religieuses et quelles sont les valeurs chrétiennes qui sont des normes identitaires?
Tenez, on va prendre des exemples. Le crucifix.
Alors, le crucifix, on prend Munich, on prend Vienne, on prend Rome, on prend la Suisse. Il y a une volonté d'imposer le crucifix comme signe identitaire. Voilà. Mais cette utilisation du crucifix n'est entérinée par les tribunaux, par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, que dans la mesure où c'est l'affirmation d'un christianisme culturel. Voilà. Cour identitaire des droits de l'homme, les Italiens ont le droit de mettre le crucifix dans les classes des collèges parce que c'est un symbole de la culture italienne. Voilà, comme la pizza. Bon. Alors là, évidemment, les évêques sont plus d'accord. Les évêques ne peuvent que dire non, le crucifix, c'est le cœur même de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. Mais la plupart des gens qui se trimballent avec un crucifix pour dire « on n'est pas musulman », ils n'en ont rien à faire de la mort et de la résurrection du Christ. Donc le drame de l'Église, c'est que la promotion de l'identité chrétienne est une nouvelle manière de séculariser la religion chrétienne.
Deuxième exemple, la mosquée. Voici un premier témoignage, c'est l'ancien évêque de Nice qui parle après que le maire de la métropole des Alpes-Maritimes d'alors, Monsieur Perra, un ancien du Front National, avait dit « Moi, je veux pas de mosquée sur mon territoire ».
Chaque religion doit pouvoir disposer des lieux de culte dont elle a besoin. Voilà. Et ça, nous le disons, n'est-ce pas? Alors, au nom du principe de la liberté religieuse, alors là, je parle en tant que catholique, et au nom de la laïcité aussi, parce que nous pensons que dans une république laïque, ce qui est religieux doit pouvoir s'exprimer publiquement.
Nous sommes en ligne avec Monseigneur Michel Dubost, l'évêque d'Évry. Bonjour. Bonjour.
Nous vous donnons la parole ce matin parce que l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a fait sa une cette semaine sur l'Église avec une pétition. Et ce titre, « Touche pas à mon Église, les Français disent non à tous ceux qui veulent transformer les Églises en mosquées ». Vous n'avez pas signé cette pétition ?
Non, parce que je la trouve inopportune. D'abord, le problème ne se pose pas. Pour le moment, je ne connais pas d'endroit en France où on veut vendre une église, où on veut la donner à des mosquées. Donc c'est un faux problème. Mais de toute façon, c'est pas aux endroits où il y a beaucoup de musulmans qu'il y a des églises libres, c'est plutôt en campagne. Et là, c'est un autre problème. Et encore une fois, moi, je voudrais rendre hommage à tous les maires qui font un travail considérable pour garder leurs églises, pour trouver des activités culturelles qui justifient que des investissements formidables qu'ils font.
Le premier son datait de 2000, le second date de 2015. La question est récurrente.
Oui, parce que les chrétiens vont de moins en moins à l'église, donc les églises sont vides. Alors on a ce paradoxe qu'on veut sauver les églises, mais comme des espèces de monuments historiques. On veut sauver des églises vides. Donc le problème de l'église aujourd'hui, c'est un problème de missionnariat, quasiment. C'est-à-dire, si vous voulez le retour du religieux, c'est à vous de reprendre le religieux en main. Vous pouvez pas demander à l'État d'ouvrir l'espace religieux, c'est pas son boulot. Et vous ne pouvez pas vous accrocher aux identitaires, parce que les identitaires tuent le religieux en sauvant le signe religieux. C'est ça le paradoxe total des mouvements identitaires.
Ça doit supposer donc une exposition au monde et non pas un repli dans une élite minoritaire. Je voudrais que vous nous racontiez, parce que vous n'avez pas cité longuement, la communauté de Sant'Egidio qui est très favorisée par les papes successifs et avec laquelle vous êtes en lien. Andrea Ricciardi, qui est peut-être un des catholiques les plus influents dans le monde, dit « Je suis inquiet parce que dans le discours des responsables politiques mondiaux, la guerre est redevenue populaire comme s'il s'agissait d'une solution. Et du coup, le grand public est désemparé et commence à penser que la guerre peut devenir inévitable alors que c'est une aventure sans retour et que la seule aventure à tenter, c'est celle du dialogue. »
Oui, Sant'Egidio agit à deux niveaux. Ils ont une activité connue donc de diplomatie parallèle, de diplomatie religieuse, où ils essaient, dans des contextes extrêmement difficiles, d'amener les gens à dialoguer. Le cas le plus typique, c'est quand ils ont réussi à mettre le fils algérien, par exemple, en contact, non pas avec le gouvernement algérien qui a refusé, mais avec les autres forces d'opposition algériennes, y compris donc les laïcs, les marxistes, etc. Et ça a beaucoup impressionné les responsables du fils algérien avec qui j'ai pu discuter, qui fait que le fils, du coup, en Algérie, c'est normalisé, comme le Nahda tunisien est rentré dans le jeu politique en abandonnant la lutte armée et en ouvrant, disons, ses références morales. Mais Sant'Egidio, c'est pas que ça. Sant'Egidio, c'est des centaines de milliers d'Italiens dans des petites villes, des petits villages, des quartiers défavorisés qui font du caritatif. Et cela, on n'en parle jamais. On parle toujours des cinq personnages Sant'Egidio, dont Ricciardi, qui est un personnage remarquable. Mais on va pas voir le petit curé de campagne qui est membre de la communauté, qui est très discret. Et là, il y a toute une activité caritative en Italie de gens du peuple. Ce sont eux qui vont conduire les ambulances gratuitement, qui vont ouvrir des centres pour les réfugiés, qui vont aller visiter les malades, visiter les prisonniers. C'est-à-dire donc vraiment dans une tradition de charité, qui est maintenant un terme galvaudé, de charité chrétienne. Et ceux qui maintiennent dans le fond une présence religieuse avec une âme. Hein, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais ils ont une spiritualité. Alors qu'en France, quand on est confronté aux tensions aujourd'hui sur la question de l'Église catholique, la pédophilie, etc., on a toujours l'impression d'avoir que c'est une question d'avocats, de tribunaux, de défense syndicale, des choses comme ça. Et on se demande, mais oui, mais bon, très bien, vous avez la foi, ça ne nous regarde pas, tout, mais l'esprit, il est où ?
Où est le fleuve souterrain ? Où est le fleuve souterrain qui lie les hommes et les femmes entre eux ? C'est l'enseignement que vous portez souvent devant Sant'Egidio, qui vous demande de parler devant les membres de la communauté. Et puis Olivier Roy, vous dites ce que vous voulez.
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas du tout l'obsession de la limite, l'obsession de l'identité. Est-ce qu'il est avec nous, contre nous, d'où il parle, etc. C'est pas leur problème.
Au seuil, votre essai, l'Europe est-elle chrétienne ? Merci à vous. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, avec Ilinka Negulesco, Frédéric Martin. À la technique, Julien Dumont, la réalisation, je l'ai déjà dit, Audrey Ripouille.